l'occasion de la journée mondiale de la couche d'ozone, C'est pas du vent, revient aujourd'hui sur cette question que l'on confond souvent avec la question climatique, bien qu'il y ait des incidences entre les deux phénomènes, c'est ce qu'on verra. Et pour faire le point sur ce problème dit du trou dans la couche d'ozone qui va, dès sa découverte, mobiliser la communauté internationale face à un péril planétaire, une histoire que l'on aimerait bien d'ailleurs voir se reproduire avec la conférence de Copenhague.
Alors pour faire le point sur ce dossier, nous recevons aujourd'hui deux invités. Khalida Bouzard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe de la division technologie, industrie et économie du programme des Nations Unies pour l'environnement. À vos côtés, Sophie Godin-Bickmann, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes directrice de recherche, secrétaire de la commission internationale sur l'ozone IO3C. Alors c'est un titre un peu austère. Ça veut dire quoi, IO3C?
C'est International Ozone Commission.
D'accord, très bien. Alors évidemment, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'est-ce que c'est que cette couche d'ozone qui a été mise en évidence dès 1902 finalement?
En fait, l'ozone est un gaz très important dans l'atmosphère parce que c'est lui qui filtre le rayonnement ultraviolet du soleil. Donc c'est lui, en fait, qui a permis l'apparition de la vie sur Terre. Sinon, le rayonnement ultraviolet était trop important et les organismes étaient obligés de rester dans les océans.
Mais ça se matérialise comment? C'est quelle épaisseur?
Alors, la majorité de l'ozone se trouve vers 20 km d'altitude à peu près. C'est ce qu'on appelle la couche d'ozone. C'est un gaz très minoritaire puisque au maximum, on trouve à peu près 6 à 8 molécules d'ozone par million de molécules d'air. Mais malgré cela, c'est un gaz très important du fait de ses propriétés radiatives.
C'est un gaz finalement qui existe depuis le sol hein, jusqu'à une certaine altitude et qui effectivement se trouve plus concentré. À une certaine latitude.
Voilà.
Et donc, quand on parle de la couche d'ozone, en fait, on parle d'une couche qui fait 3 mm, hein, qui fait, enfin bon, en temps normal, hein, puisque
oui,
là, justement,
près,
on
oui.
est sur quelque chose d'extrêmement fin, finalement.
C'est-à-dire que si on considérait la totalité de l'atmosphère, l'atmosphère ferait 8 km d'épaisseur à peu près, et l'ozone représente 3 mm.
Oui. Et alors, sans cette couche, pas de vie.
Pas de vie sur Terre.
Pas de vie sur Terre. D'où évidemment l'importance de cette couche.
Oui, alors tout commence avec deux scientifiques américains, hein, Marion Molina et Sherwood Warland, qui en 1974 formulent pour la première fois la théorie de l'appauvrissement de la couche d'ozone.
Oui, et puis c'est Farman, hein, je vais continuer un petit peu l'histoire, ouais. c'est Farman du British Antarctica Survey qui annonce en 85 qu'un trou temporaire mais important apparaît chaque printemps dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique depuis 79. Et se résorbe au début de l'automne. Et puis enfin, le 15 mars 88, la NASA diffuse un rapport mené par une centaine de chercheurs dans le monde qui confirme que la concentration d'ozone dit stratosphérique a diminué en moyenne de 1,7% à 3% dans l'hémisphère nord entre 69 et 86 et qu'il y a une augmentation des rayons ultraviolets les plus nocifs et que cela crée une élévation des risques pour la vie terrestre. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là?
À ce moment-là, en fait, le protocole de Montréal est signé. Donc, en fait,
alors peut-être on va essayer de comprendre un petit peu. On découvre. Les scientifiques nous disent, on a un gros problème. À ce moment-là, Khalida Bouzard, comment cette communauté internationale réagit à cette information? C'est quand même la première fois qu'on est confronté à un danger planétaire.
Oui, effectivement. Enfin, comme le disait Sophie, lorsque l'effet des CFC a été découvert sur la couche d'ozone, la communauté...
Les CFC, il faut expliquer ce que c'est. Hein.
Pardon, c'est des chlorofluorocarbures.
C'est-à-dire que c'est des produits...
Des produits qui contiennent des composés chlorés qui sont extrêmement inertes et c'est pour ça que leur application par l'industrie chimique s'est étendue énormément. Donc, c'est des composés inertes au moment de leur émission.
Mais qu'on trouvait dans quoi?
Ah, c'est complètement synthétique. C'est des composés qui ont été en fait initialement synthétisé par Dupont de Nemours dans les années 30.
Donc on parle bien de produits créés par l'homme.
Complètement créés par l'homme.
Voilà, pour
dans des activités chimiques, pour tout ce qui est réfrigération, agents gonflants, spray aérosol,
voilà, donc
etc.
On s'aperçoit qu'à cause de l'activité humaine, eh bien, on a mis en circulation des produits qui sont en train de détruire cette couche d'ozone qui est vitale pour notre survie.
Et qui met en danger la santé des êtres humains. Donc la communauté internationale a réagi. agit immédiatement en prenant conscience de ce défi au niveau mondial. Et pour cela, il se mobilise pour agir, premièrement en signant la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone en 85 et, comme le disait Sophie, par l'adoption du protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant l'ozone, et ce le 16 septembre 1987, d'où la journée mondiale de l'ozone. Donc, si vous me permettez juste un petit peu de détails par rapport à ce protocole, non seulement l'objectif c'est de protéger la couche d'ozone en réduisant les quantités de substances nocives, mais la communauté internationale s'est dotée de moyens qui permettent de contrôler la production et la consommation de ces substances jusqu'à leur suppression complète. À noter qu'il y avait des objectifs chiffrés clairs à long terme pour chacune des grandes familles de ces substances, et à noter notamment que les pays en développement, quand ils se sont engagés dans ce protocole, ils se sont engagés sur la base de ce qu'on appelle la responsabilité partagée, mais différenciée entre pays en développement et pays développés.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand, là, c'est la mobilisation internationale, il y a eu les alertes dites par les scientifiques, mais il fallait que ça passe dans l'opinion publique, et c'est là où on a retrouvé quelques éléments sonores assez amusants. C'est Manuela Bermudez qui a fait cette petite compilation sonore d'il y a 20 ans.
Je recevrai au cours de cette édition Nicole Louinard de l'ONERA, l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, à propos d'une affaire d'ozone qui a disparu.
Une affaire d'ozone qui aurait disparu. C'est en ces termes flous, voire franchement incrédules, que les journalistes accueillent, dès 1985, la découverte d'un trou dans la couche d'ozone en Antarctique. L'ozone, ce gaz précieux qui nous protège des rayonnements ultraviolets, diminue chaque année, à la même période, au-dessus du pôle sud. Les scientifiques s'alarment, évoquent un trou gigantesque, mais l'opinion publique et les médias ont encore du mal à le croire. Écoutez la réaction de ce journaliste en 1986, quand on lui parle du trou. Mais quel trou ?
Mais alors, quand on parle d'un trou aussi grand que l'Amérique du Nord, c'est peut-être un petit peu exagéré, non ?
C'est probablement exagéré. D'abord, il ne s'agit probablement pas d'un trou zéro.
Oui, il y en a un petit peu, quand même.
Une baisse d'ozone qui est probablement passagère dans la période de printemps, mais qui se reproduit régulièrement tous les ans.
Il faut dire que le sujet est complexe. À l'époque, on ne parle pas encore de réchauffement climatique. Et on commence à peine à comprendre les gaz à effet de serre, ces fameux CFC qui détériorent l'ozone. D'éminents savants vont d'ailleurs complètement se tromper. Écoutez à ce propos Haroun Taziev, le célèbre vulcanologue, interviewé en 1989. Pour lui, à l'époque, il n'est pas du tout prouvé que les CFC soient responsables du trou dans la couche d'ozone.
Je ne suis pas du tout convaincu de la nocivité des CFC, donc des fréons, pour la couche d'ozone. Personne n'a pu me donner l'amorce même d'une explication sur la localisation de ce trou au-dessus du continent le plus désert qui soit, où il n'y a donc pratiquement aucune émission de fréons, alors que l'essentiel du fréon est utilisé dans l'hémisphère nord et non pas dans l'hémisphère sud, et qu'au-dessus de nos têtes, le fréon n'a pas l'air d'être tellement mal en point.
Finalement, 4 ans vont s'écouler entre la découverte du trou de la couche d'ozone et les premières mesures pour la protéger et nous protéger. En 1990, enfin, les médias changent de ton. Cette fois, c'est la mobilisation générale. Il faut sauver la couche d'ozone.
Pour la couche d'ozone, le sauvetage commence. Le protocole de Montréal, signé là-bas par 24 pays, entre en vigueur aujourd'hui. Un objectif, sauver cette couche attaquée par les bombes aérosols.
C'est extraordinaire l'incrédulité à cette époque-là. Hein. C'est tout à fait. C'est la même situation qu'un petit peu avec les réchauffements climatiques. Hein. Au début, l'information arrive, mais finalement, on a de la peine à s'en emparer. D'autant que cette information posait un certain nombre de problèmes.
Oui, mais je vous ai alors, vu hausser les yeux, là, en disant que c'est pas possible.
En fait, à l'époque, on a été très étonnés de la réaction d'Haroun Taziev parce que des preuves scientifiques, il y en a eu. Il y a eu une campagne de mesure qui a été organisée par la NASA et qui a permis de mettre en évidence l'action des composés chlorés sur l'ozone de façon évidente. Et c'est ça qui a permis, justement, c'est ces mesures précises faites par un avion stratosphérique au niveau de l'Antarctique qui ont permis de mettre en branle ébranle très rapidement les actions sur la couche d'ozone. Les scientifiques, finalement, ont pu démontrer très rapidement que c'était les CFC qui étaient en cause. Donc, le problème, c'est qu'Haroun Taziev, à l'époque, ne travaillait pas du tout sur le sujet. Donc, il donnait son avis sur un sujet qu'il ne connaissait pas.
Ouais. Alors, c'était on entend bien aussi comment les journalistes sont un peu sceptiques. Hein. C'est, pourtant, c'est vraiment incroyable de voir la difficulté que ce message a eu à passer, parce que pourtant, les conséquences sur la santé des humains et sur les écosystèmes en général sont vraiment très importantes.
C'est pour ça qu'à l'époque, en fait, les scientifiques ont fait de gros efforts pour essayer d'expliquer de quoi il s'agissait en termes clairs pour l'opinion publique.
Alors, vous pouvez peut-être recommencer aujourd'hui.
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que le protocole de Montréal a spécifié qu'il fallait qu'il y ait un rapport sur l'état de la couche d'ozone tous les 4 ans à peu près, qui soit établi et qui permette de dire où en est la couche d'ozone
sur les dangers pour la santé, pour l'environnement, finalement. Cette couche d'ozone, à partir du moment où elle ne nous protège plus, qu'est-ce qui peut se passer?
Il y a des problèmes pour la santé humaine, les cancers de la peau, les problèmes de cataracte. Il y a des problèmes pour les écosystèmes, les micro-organismes.
C'est-à-dire que la couche ne nous protège plus des rayonnements extérieurs et donc ces rayonnements provoquent sur les espèces vivantes un certain nombre de problèmes.
Absolument.
Alors on le voit par exemple dans des pays comme le Chili qui doivent faire face depuis de nombreuses années aux impacts de ce phénomène. À Punta Arenas par exemple, au sud du Chili, la quantité d'ozone diminue de 30 à 50% durant le printemps austral, c'est notre automne au pôle Nord, et ça oblige les habitants à se protéger la peau. Écoutons sur ce thème le reportage de Claire Martin au Chili.
Jusqu'ici, tout va bien. Dans la région de Punta Arenas, l'indice UV est bas. C'est quand il atteint 11 ou plus qu'il faut s'alarmer. Ce qui arrive 8 jours en moyenne par an, surtout en octobre, au moment où le trou dans la couche d'ozone se rapproche le plus. Julio Monreal travaille au ministère de la Santé. Il explique que la population de Punta Arenas n'est pas la plus exposée.
On pourrait penser que Punta Arenas, se situant à la limite du trou dans la couche d'ozone, recevrait une plus forte intensité de radiation UV que dans le reste du pays. Ce serait vrai si les rayons du soleil entraient perpendiculairement dans la couche d'ozone, mais ce n'est pas le cas. De fait, les niveaux de radiation qu'on calcule sont beaucoup moins élevés que ceux que l'on calcule au nord, dans les zones plus proches des tropiques, comme Antofagasta ou Arica. Et comme c'est une zone très froide, les gens se couvrent et donc s'exposent moins au soleil. À Punta Arenas, personne ne travaille sans une doudoune et un bonnet.
Pour une fois, le mauvais temps est une chance, d'autant que les nuages forment une protection naturelle contre les UV. Seulement, les rares fois où le soleil pointe son nez, tout le monde veut en profiter. Pour informer la population, les autorités ont créé un feu rouge solaire. Luis Barria est directeur du bureau régional des secours. Chaque jour, c'est lui qui donne la couleur.
Nous recevons un pronostic quotidien des UV que reçoit la région. Nous le traduisons en couleur sur le feu rouge solaire. L'alerte maximale, c'est le rouge. Il ne faut alors surtout pas s'exposer directement à la lumière du soleil. Et si on est obligé de sortir, c'est avec une casquette et des lunettes de soleil.
Ces feux rouges sont partout dans les écoles, collèges et universités, à l'entrée des institutions publiques, dans les pages des journaux locaux. Impossible de ne pas savoir. Christina vit depuis toujours à Punta Arenas, c'est son quotidien, pourtant elle ne se protège pas beaucoup.
La vérité, c'est que je ne m'occupe pas trop de ma peau, parce que je ne suis pas tellement en contact avec le soleil. Je passe ma journée au bureau. Mais je me soucie beaucoup plus de la peau de mon fils. C'est un sportif, et comme il joue au football, et qu'il est plus exposé au soleil, il utilise la crème solaire indice 40.
Pas de chapeau ni de lunettes de soleil adéquates comme la plupart des gens de la région. Souvent, ça coûte cher, mais le problème est aussi culturel, explique Maria Isabel Banciela. Elle est directrice du secrétariat régional du ministère de la Santé.
Les adultes en général sont au courant, mais ils ne changent pas leurs habitudes. C'est probablement un problème culturel ou éducatif. Comme ils voient que les problèmes de santé sont à long terme, ils n'appliquent pas les recommandations que nous faisons. En revanche, les gens sont plus attentifs aux enfants. car les radiations les plus dangereuses sont souvent celles que l'on reçoit dans les premières années de sa vie.
Entre 1986 et 2003, les cancers de la peau ont augmenté de 70% dans la région. Depuis, il y a un ralentissement, mais la situation reste préoccupante avec 40% d'augmentation. Raïmé Abarka est dermatologue, c'est lui qui a révélé ces chiffres. Il s'inquiète aujourd'hui de l'augmentation d'une maladie de la peau rare.
Une maladie qui a spécialement augmenté ces 2-3 dernières années, c'est la dermatomyositis, ce qui signifie une inflammation des muscles avec une faiblesse dans les bras et les jambes. Une étude va sortir en Angleterre cette année sur ce phénomène. Nous avons eu 7 fois plus de dermatomyositis que de normal. Normalement, nous devrions avoir un seul cas tous les 2 ans en moyenne, mais en 2006 et 2007, nous avons eu 11 cas. Et ça pourrait être lié en partie à une augmentation des UV. C'est une des causes qui le provoque.
Il faudra plus d'études pour savoir si c'est effectivement le trou dans la couche d'ozone qui accélère le développement de cette maladie. La population ne semble pour l'instant pas trop préoccupée.
Sophie Godin-Beckmann, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ce trou ? Donc, à un moment donné, on se rend compte qu'on a un gros problème sur l'Antarctique, on déclenche le signal d'alarme, la communauté internationale se mobilise, et ensuite, que donnent les observations suivantes ? On s'aperçoit qu'effectivement, il y a une réponse efficace.
En fait, il se trouve qu'actuellement, donc le trou dans la couche d'ozone, c'est un phénomène récurrent qui revient tous les ans. On a pris des mesures pour réduire les émissions des CFC, mais ces gaz ont des durées de vie très importantes dans l'atmosphère. Donc en fait, dans la haute atmosphère, dans la stratosphère, leur réduction est très limitée pour l'instant. Donc pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a stabilisé le problème, c'est-à-dire que la couche d'ozone ne diminue plus, elle s'est stabilisée mais à des niveaux inférieurs au niveau qui existait en 1980, de l'ordre de 4% à peu près, et le trou dans la couche d'ozone est toujours récurrent, mais sa taille n'augmente plus. Sa taille est de l'ordre de entre 20 à 25 millions de kilomètres carrés, sachant que l'Antarctique a une surface d'à peu près 14 millions de kilomètres carrés. Donc c'est un trou très important qui peut se déplacer sur les régions habitées comme le Chili. Et à ce moment-là, les habitants, évidemment, reçoivent des doses de rayonnement UV plus importantes.
Donc finalement, on a la confirmation que cette intervention humaine a fonctionné. C'est-à-dire qu'on a réussi vraiment à endiguer le problème.
Enfin, on a réussi à stabiliser l'ozone. Maintenant, ce qu'on attend, c'est le deuxième stade. C'est-à-dire qu'on attend à ce que l'ozone réaugmente dans l'atmosphère, mais on n'en est pas encore là pour l'instant.
Ralida Bouzard, c'est vrai que c'est un bel exemple de mobilisation internationale. Quand même, il y a eu l'alerte, et là, tous les pays ont convergé pour trouver des solutions. On espérerait bien que ce soit la même chose pour lutter contre le climat à Copenhague.
Écoutez, effectivement, il y a très peu, la dernière signature a été notée. On a 196 parties maintenant au protocole de Montréal. Il y a des liens évidents et comme le disait dans son discours Ban Ki-moon, dans son discours pour célébrer la journée d'aujourd'hui, il préconisait qu'on utilise le modèle du protocole de Montréal comme un exemple.
Mais il disait aussi qu'il fallait que les États négocient davantage, hein, c'est ce qu'on disait dans la première partie de l'émission, parce qu'il trouve que les négociations n'avancent pas beaucoup.
Écoutez, j'ai en face de moi un discours de M. Ivo Dober, qui est secrétaire exécutif de la Convention changement climatique, qui, lui, semble être plus optimiste. Il dit, et je le cite, que l'horizon s'éclaircit, que les négociations avancent, pas assez rapidement, mais qu'elles avancent. Et il voit dans les négociations pour Copenhague une opportunité non seulement pour créer un cadre législatif et politique, mais aussi une opportunité pour construire une transition vers une économie verte.
Mais finalement, si Montréal a fonctionné, enfin si toute cette stratégie sur l'ozone a bien fonctionné, il y avait quand même plusieurs facteurs. C'est-à-dire qu'on avait clairement identifié les CFC, il se trouvait que les industriels avaient peut-être aussi à ce moment-là des alternatives pour changer finalement de produit. Enfin, on a été dans une configuration un petit peu particulière. Avec le climat, on est avec une donne beaucoup plus complexe et très différente. Vous pensez que finalement, ce qui s'est passé à Montréal pourrait se répéter ?
Écoutez, je voudrais dire, on l'espère tous. Effectivement, la différence, enfin, à Montréal, il y avait une approche différenciée. Je pense que c'est ça qui va être un succès si c'est adopté à Copenhague, mais aussi le problème de financement. Les financements existaient pour Montréal et l'intérêt des industries y était. Donc, on avait tous les ingrédients pour un succès en espérant que ceci pourra être répété pour Copenhague.
Sophie Gonabitman.
Oui, en fait, c'était aussi beaucoup plus limité. C'était quelques industriels qui produisaient ces gaz et qui, en plus, avaient cette possibilité de produire les substituts, enfin, les alternatives au CFC. Donc, en fait, ce qu'il fallait, c'était mettre en place les mécanismes financiers pour pouvoir, en fait, faire les transferts de technologies vers les pays en voie de développement pour que ceux-ci puissent produire aussi ces alternatives au CFC.
C'était plus simple, finalement.
C'était beaucoup plus simple comme problème, mais bon, c'est vrai que c'était aussi un premier succès.
Alors, sur le trou de la couche d'ozone, on s'est rendu compte aussi qu'il n'y avait pas uniquement que les CFC, c'est-à-dire qu'en continuant à faire de la recherche, on s'aperçoit qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent dans les causes et qu'il y a des facteurs qui vont peut-être être plus compliqués à gérer.
En fait, actuellement, il y a un papier qui est sorti sur l'influence des oxydes d'azote, mais ça, c'était quelque chose qui était connu déjà avant. C'est un article qui était sorti dans les années 70. Déjà, Paul Crutzen, notamment, avait travaillé là-dessus. Et effectivement, maintenant que les émissions de CFC ont diminué, on se rend compte que d'autres gaz, qu'on savait être destructeurs d'ozone de toute façon, comme l'oxyde nitreux, N2O, et aussi producteurs d'oxyde d'azote qui peuvent diminuer la couche d'ozone.
Alors là, c'est un peu technique, mais dites-nous, par exemple, où est-ce qu'on trouve ce gaz, dans quel type de matériaux
En fait, il est essentiellement produit par les engrais azotés. Voilà, donc c'est un puissant gaz à effet de serre aussi. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a quand même un effet de co-bénéfice entre le protocole de Montréal et le protocole de Kyoto, parce que les CFC sont de puissants gaz à effet de serre. Donc le fait d'avoir diminué l'abondance des CFC dans l'atmosphère a permis de diminuer aussi l'abondance des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est très important de souligner. Il y a cet effet de co-bénéfice entre les deux protocoles. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que les substituts qui sont utilisés pour remplacer les CFC ne soient pas, eux, avec des pouvoirs réchauffants plus importants que les gaz qu'on utilisait auparavant.
Et alors, aujourd'hui ?
Donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. Mmh. C'est un peu la gageure actuelle, c'est d'utiliser des substituts qui ne détruisent pas l'ozone et n'influencent pas le problème de l'effet de serre.
Vous pointeriez du doigt quel type de matériaux, par exemple, qui serait mauvais en ce moment, qui serait en train de se développer ?
Pour l'instant, en fait, les substituts des CFC, il y a une première étape qui sont les HCFC, donc qui contiennent des atomes d'hydrogène.
Ouais.
Et ces gaz ont une durée de vie moins grande et ils sont moins destructeurs d'ozone. Mais c'est une première étape parce qu'ils détruisent quand même l'ozone. Donc on a dit on va fabriquer des gaz qui ne contiennent pas du tout du chlore. Donc c'est les HFC. Mais ces gaz-là peuvent avoir un pouvoir réchauffant très important.
En quoi on a besoin de ces gaz absolument pour vivre ?
Pour toutes les applications de réfrigération, de climatisation, on ne veut pas non plus complètement, c'est un peu comme le problème de la production d'énergie, les gens veulent pouvoir continuer à avoir des réfrigérateurs,
et puis c'est aussi vous le signaliez sur d'autres gaz, aussi des pratiques agricoles qu'il faut changer, et là c'est quand même beaucoup plus compliqué.
Oui, c'est un problème compliqué, effectivement.
Et alors sur les incidences avec le climat, parce qu'on le disait tout à l'heure en début d'émission et vous le rappeliez, il y a des tas de passerelles, même si effectivement c'est deux problèmes distincts. Aujourd'hui, ce problème engendre aussi un certain nombre de difficultés qui participent à ce réchauffement climatique.
Justement, parce que donc il y a ces substituts, il faut faire attention à ne pas aggraver le problème de l'effet de serre. Par ailleurs, il faut savoir aussi d'un point de vue atmosphérique que l'effet de serre et la diminution d'ozone sont deux phénomènes liés. Donc l'augmentation de l'effet de serre va avoir une incidence sur le rétablissement de la couche d'ozone. Donc ces deux sujets sont étudiés par les scientifiques actuellement.
Khalida Bouzar, quel est le message de la Journée mondiale de la couche d'ozone cette année ? Enfin, la Journée mondiale de la protection de la couche d'ozone.
Le message, c'est de voir comment aussi lier le protocole avec Copenhague et de construire des passerelles, comme vous le disiez, et prendre avantage des succès et peut-être aussi des failures. Je ne sais plus comment. des difficultés rencontrées par le protocole de Montréal. Par exemple, je voudrais seulement signaler que le 22 septembre, Ban Ki-moon organise un sommet des chefs d'État et de gouvernement pour discuter des questions de changement climatique en vue de la préparation de Copenhague. Et toutes les personnes sont invitées à s'habiller en vert ce jour-là.
Très bien, mais nous, on sera en vert, Arnaud.
Absolument. On a prévu d'en parler, d'ailleurs.
Et donc, il y a une mobilisation internationale. Est-ce qu'au niveau des chercheurs, par exemple, aujourd'hui, il se passe des choses particulières? Il y a des remises de travaux?
Oui, enfin, on est actuellement en train de travailler sur le prochain rapport sur l'état de la couche d'ozone qui sera finalisé en 2010 et publié en 2011.
Donc, ouais. Les prochaines échéances, les prochains rendez-vous sur l'ozone, c'est...
Les prochains défis, comme vous le disiez, c'est de voir des substituts qui ne déplaceraient pas le problème de l'ozone vers les changements climatiques.
Si tout va bien, on rétablit définitivement la situation à quelle échéance ?
Alors, les dernières estimations donnent 2050 à peu près pour la couche d'ozone à l'échelle globale. Pour une résorption totale du trou d'ozone, on avance la date de 2060-2065 à peu près.
Vous pensez, vous êtes optimiste, vous pensez qu'on va y arriver?
Ah oui, tout à fait, oui.
Bon, bah écoutez, c'est une bonne nouvelle. Et du côté du programme des Nations Unies pour l'environnement, j'imagine que vous suivez évidemment ce succès-là et vous soutenez.
Oui, effectivement, on a les mêmes échéances. On espère que la régénération aura lieu vers la moitié du 21e siècle. So, on est tout à fait d'accord sur les échéances.
Merci à toutes les deux d'être venues dépasser dans ces pas du vent. La couche d'ozone, évidemment, c'est un sujet dont on reparlera régulièrement dans cette émission. Demain, nous nous intéresserons à l'adaptation au changement climatique. Comment les pays du Sud peuvent-ils s'adapter aux conséquences des changements climatiques? Nous recevrons des spécialistes de l'ONG Oxfam qui sortent un rapport demain sur ce sujet. À demain donc.
Même planète, même heure. Merci.